Juste après le journal de 7h, l'édito éco avec Carole Ferry et le rendez-vous santé de Jimmy Mohamed. Mais il est 7h déjà sur Europe 1. Et bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il faut que cette équipe, solide et lucide, elle soit aussi visionnaire. Il faut qu'elle pense le monde qui vient.
Solide, lucide, visionnaire. On saura aujourd'hui si le nouveau gouvernement correspond bien à la vision de François Bayrou. Les tractations ont duré tout le week-end. Au Havre, Édouard Philippe a retrouvé son fauteuil de maire. Ses administrés, tout acquis à sa cause, ont déjà quelques doutes sur son successeur, Jean Castex. Les pompiers n'ont pas du tout digéré d'être sous-exploités pendant la crise du Covid. Leur fédération sort un rapport extrêmement critique sur les services de santé. Le président du SAMU, lui, crie à la frustration.
Les pompiers n'arrêtent pas de dire qu'ils deviennent des supplétifs de la santé et que ce n'est pas leur travail. Et ben on a fait sans eux et on a réussi, alors c'est peut-être ça qui les froisse.
La fin du voyage pour les 180 migrants recueillis à bord du navire humanitaire Ocean Viking. Ils vont pouvoir accoster en Sicile ce matin. Et puis les pilotes de Formule 1 mobilisés contre le racisme. Hier, pour le premier Grand Prix de la saison en Autriche, la plupart ont mis genoux à terre, notamment Lewis Hamilton.
C'est un point de départ, mais je n'arrêterai pas d'insister jusqu'à ce qu'il y ait un vrai changement. Voir une personne de couleur ajoutée au paddock, ce n'est pas de la diversité.
Votre invité à 7h40, Pierre.
Le président du Cercle des économistes, Jean-Hervé Lorenzi, qui vient d'avoir un week-end chargé avec les rencontres d'Aix. Quelle économie doit nous attendre dans les mois qui viennent ?
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Pierre de Villeneuve, Hélène Zelani.
Le suspense va prendre fin dans les heures qui viennent. On va enfin connaître la composition du gouvernement Castex. Emmanuel Macron a esquissé quelques pistes hier soir sur Twitter. Un gouvernement de mission et de rassemblement. Un nouveau chemin doit être dessiné, centré sur la reconstruction économique, sociale, environnementale et culturelle. Voilà pour les mots du chef de l'État. En attendant les décisions, les tractations se sont poursuivies tard hier soir et ne sont d'ailleurs peut-être pas encore terminées. Jean-Rémy Baudot.
Depuis vendredi soir, les discussions ont été nombreuses entre l'Élysée et Matignon. Encore tard hier soir, au dîner, Emmanuel Macron et Jean Castex ont peaufiné leur liste. Des échanges fluides laissent entendre l'entourage du nouveau Premier ministre. Sauf que rien n'est simple. La parité est un défi à respecter. Certains ministres rechignent à modifier leur périmètre. Il faut parfois négocier. Le chef du gouvernement a donc aussi multiplié les entretiens. Plusieurs ministres ont été reçus à Matignon, Blanquer, Guillaume, Darmanin. Pour ceux qui n'ont pas été appelés, le week-end a été rude, l'œil rivé sur les téléphones. Un proche d'un important ministre tentait de se rassurer. « Je ne vois pas pourquoi on se passerait de lui, il n'a pas démérité récemment. » Cette nouvelle équipe d'une vingtaine de ministres sera complétée dans un deuxième temps par les secrétaires d'État avec des dossiers plus précis. Un gouvernement de mission a promis Emmanuel Macron. Avec une feuille de route officielle, celle de relancer l'économie du pays, d'impulser de nouvelles mesures écologiques ou sociales, et une feuille de route plus officieuse, celle de replacer Emmanuel Macron au cœur du dispositif, à moins de 2 ans de la présidentielle.
Alors, à quoi peut ressembler le futur gouvernement ? Selon le président du MoDem, François Bayrou, voici les cases qu'il doit cocher.
L'architecture gouvernementale doit répondre à 3 exigences. La première, la capacité, la solidité pour répondre à la crise. Deuxièmement, une équipe gouvernementale qui mesure qu'un certain nombre des problèmes que nous allons rencontrer en raison de la crise sanitaire préexistaient à la crise. Donc il faut, deuxième exigence, corriger un certain nombre de fragilités qu'on avait laissé s'installer au cours des 30 dernières années. Et troisièmement, il faut que cette équipe, solide et lucide, elle soit aussi visionnaire. Il faut qu'elle pense le monde qui vient. Il faut donc une dose d'enthousiasme, de volonté de construire, d'optimisme qui s'exprime dans l'équipe qui va avoir à faire face à une crise terrifiante.
François Bayrou, président du MoDem, invité hier du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos.
Un gouvernement qui sera donc dirigé par Jean Castex. Le Premier ministre a dîné à l'Élysée hier soir et ensuite visite surprise à des policiers de la Courneuve en Seine-Saint-Denis.
Oui, il les a assurés de son soutien sans faille et de l'importance pour lui de la sécurité publique. À la question, y a-t-il des endroits où vous ne pouvez pas aller ? Les policiers lui ont répondu qu'ils pouvaient circuler partout.
Au boulot, c'est un peu la consigne qui va circuler au plus haut sommet de l'État, mais c'est aussi avec ces mots qu'Édouard Philippe a officiellement retrouvé son fauteuil de maire du Havre hier.
L'ex-premier ministre qui s'est offert un bain de foule sous les applaudissements des Havrais, ravi de le retrouver sur ses terres normandes. Des Havrais déjà assez critiques sur son successeur. Reportage de Johanna Chabas.
La place est bouillante. Ça va être compliqué. Il doit avoir une pression de dingue.
Erika l'admet, un peu chauvine, elle aime beaucoup trop Édouard Philippe pour penser qu'un autre soit capable de le remplacer. Sans aller jusque-là, Christophe estime effectivement que la popularité obtenue par le maire du Havre pendant la crise du coronavirus va jouer en défaveur de Jean Castex.
Il a incarné l'homme fort de la crise. Il a pris le rôle de chef d'État à un moment donné. Il l'a bien endossé en plus. Son successeur, ça va être compliqué. Quoi. Quand on passe derrière quelqu'un qui n'a pas été mauvais, c'est difficile d'être bon.
Une difficulté qui risque justement d'être renforcée par l'après-Covid, selon Daniel, qui plaint déjà le nouveau Premier ministre.
Il y a du travail à faire. Hein. Tout va revenir, la retraite, les gilets jaunes, je pense qu'ils ne vont pas céder. Je lui souhaite bon courage, beaucoup de courage.
Mais tous le reconnaissent, il avait fallu du temps à Édouard Philippe pour être connu des Français non avrés. Ils veulent donc attendre avant de se faire un avis définitif sur Jean Castex. Le Havre, Johanna Chabas, Europe 1.
Jean Castex devra d'ailleurs attendre avant de prononcer sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée, puisque c'est Emmanuel Macron qui prendra la parole le premier à l'occasion du 14 juillet.
Édouard Philippe s'est installé, lui, en grande pompe au Havre, mais dans le même temps, certaines communes se retrouvent sans personne à la mairie, faute de vocation.
17 précisément, dont 4 ont plus de 1000 habitants. Aucun candidat au municipal, comme à Bruelas, dans l'Ain, près de Bourg-en-Bresse. C'est l'ancien maire qui va devoir reprendre du service, Damien Metz.
Quasiment 2000 habitants, mais toujours personne pour reprendre la mairie. Alors au lendemain du second tour, c'est Daniel Paubel, retraité de la fonction publique, qui dirige la commune, alors même qu'il n'y avait jamais mis les pieds.
Non, moi j'habite à une dizaine de kilomètres de cette commune. C'est une administration conservatoire et urgente.
Une délégation temporaire de 3 mois désignée par le préfet et dont le seul but est d'assurer les affaires courantes. Impossible, par exemple, d'investir et d'acheter de nouveaux équipements municipaux. La priorité reste de trouver un candidat et convoquer de nouvelles élections, car la situation n'est pas tenable, explique Philippe Beuzelin, le secrétaire général de la préfecture de l'Ain.
Malheureusement, quand il n'y a pas de candidature, l'option en général choisie par les préfets, c'est celle de provoquer la disparition de la commune et sa fusion avec une ou plusieurs des communes voisines.
Après plus de 30 ans de mandat, c'est finalement l'ancien maire Michel Chanel qui pourrait mettre fin au statu quo.
Je ne peux pas me résoudre à laisser la commune abandonner ou disparaître administrativement. Non, c'est pas ce que j'avais prévu me reposer, mais tant pis. J'y retourne.
D'ici le mois de septembre, la préfecture de l'Ain a bon espoir de retrouver des maires dans l'intégralité de ses communes.
Et c'est un maire Europe Écologie Les Verts qui sera mon invité tout à l'heure à 8h15. Pierre Hérumic, désormais à la tête de Bordeaux.
Europe 1, il est 7h07.
C'est une entreprise emblématique du Nord, souvenez-vous des pubs. Fildar, fabricant de fils à tricoter et de prêt-à-porter, eh bien est désormais placé en procédure de sauvegarde.
Une enseigne qui s'ajoute à la longue liste des marques touchées de plein fouet par la crise du Covid, sachant que les difficultés avaient déjà commencé un peu avant. Fildar, c'est 223 salariés, 131 magasins. Maximilien Carlier s'est rendu dans celui de Lille, où les clients sont très attachés à la marque.
Moi, j'ai toujours connu Fildar depuis même mon enfance où j'ai appris à tricoter. Et pour moi, c'est toute une vie, Fildar.
Le sac rempli de quelques pelotes de laine et quelques aiguilles, Nathalie, comme beaucoup de mamies, va confectionner un pull pour sa petite fille. Voir cette marque historique du textile en difficulté fait beaucoup de mal aux clientes, comme Gisèle.
Ça m'attriste un petit peu si jamais ça ne marche plus, parce que j'y suis fidèle depuis de très nombreuses années. Une vieille tricoteuse, on ne souhaite pas qu'il puisse y avoir des problèmes avec Fildar, que les magasins puissent fermer et mettre des gens au chômage.
Les salariés de leur côté ne sont pas forcément surpris par cette procédure de sauvegarde. Il faut dire qu'il y a d'autres entreprises menacées dans l'habillement. Camailleux, Nafnaf, André, La Halle, Olivier Ducatillon, président de l'Union des industries textiles dans le Nord.
Le Covid est passé par là et malheureusement la réouverture ne peut donner qu'une activité partielle. La situation ne s'est pas améliorée, elle est juste devenue moins pire que pendant la crise et pendant le confinement.
Et des offres de reprise sont étudiées cette semaine chez Fildar. La direction veut engager un plan de réorganisation, mais on ne sait pas si cela va toucher les boutiques, le siège social ou bien les deux. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et puis sachez que la semaine de la mode commence aujourd'hui à Paris, mais pour la première fois en virtuel, sans aucun défilé. Dior diffusera par exemple cet après-midi un film réalisé par l'Italien Matteo Garrone, récompensé à Cannes pour Gomorrah.
Europe 1. 7h09, ils ont un peu l'impression d'avoir été les oubliés de la crise. Les sapeurs-pompiers de France dénoncent la gestion de l'administration de la santé. On revient sur ce rapport très critique dans la suite du journal. A tout de suite.
L'Europe 1, il est 7h10, la suite du journal Hélène Zélani, Pierre de Villeneuve.
Le rapport n'était pas voué à être connu du grand public, mais il fait beaucoup de bruit. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers dresse un constat très sévère de la gestion de la crise du Covid.
Oui, rapport interne destiné au ministère de l'Intérieur et dévoilé hier par Le Parisien. Il pointe une administration de la santé dépassée, un numéro d'urgence saturé ou encore des préfets relégués au second plan. Ce qu'on comprend entre les lignes, Pierre Herbulot, c'est que les pompiers ont l'impression d'être les grands oubliés de la crise.
Les soignants applaudis, des caissiers devenus des héros du quotidien et des pompiers. Ils étaient mobilisés, les pompiers ? Oui, et trois fois oui, répond le colonel Grégory Allion, président de la Fédération nationale.
Lorsque vous savez que les sapeurs-pompiers sont allés renforcer des centres 15 qui étaient saturés, lorsque vous savez que les sapeurs-pompiers sont allés dans les centres hospitaliers pour faire ce que l'on appelle des zones de tri entre celles et ceux qui étaient symptomatiques et les urgences qui étaient véritables et non Covid, ben tout ça n'a jamais été dit. Et pour autant, c'est ce qui a fait que nous avons pu faire face localement, territorialement, au Covid-19.
Il critique aussi les transports de malades en train médicalisés quand des colonnes entières de camions de pompiers étaient prêtes, dit-il, ce qui fait siffler les oreilles du président du SAMU, François Braun.
Les pompiers n'arrêtent pas depuis des mois et des mois de dire qu'ils deviennent des supplétifs de la santé et qu'ils ne veulent pas le faire et que ce n'est pas leur travail, et que, etc., etc. Ben, on a fait sans eux, voilà, et on a réussi, alors c'est peut-être ça qui les froisse.
Lui sera entendu cet après-midi par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, contrairement aux représentants des pompiers qui n'ont jamais eu voix au chapitre, du moins avant de publier leur propre rapport.
Pierre Herbulot, un gendarme légèrement blessé lors d'un contrôle routier hier soir à Gouzeaucourt dans le Nord. Un conducteur a refusé de s'arrêter. Il a roulé sur le pied du fonctionnaire avant de prendre la fuite. Dans le Lot-et-Garonne, l'émotion reste très vive après la mort d'une femme gendarme de 26 ans samedi soir à Port-Sainte-Marie. Un conducteur a là aussi refusé de s'arrêter à un barrage. Il a heurté la jeune femme, déjà connue des forces de l'ordre. Il est toujours en garde à vue.
Si vous avez la chance d'être déjà en vacances ou si vous vous apprêtez à partir, vous traverserez peut-être la France en prenant l'autoroute. Très pratique pour les automobilistes, mais pénible pour les riverains, surtout l'été.
Et oui, des riverains unis dans un combat, le respect de la réglementation sur le bruit. Sur certains tronçons, de la 6 ou de la 10, les murs anti-bruit sont obligatoires, mais les règles ne sont pas toujours faciles à faire appliquer. Direction le Var, où la 57 sera bientôt élargie, ce qui va pourrir la vie des habitants des quartiers concernés. À La Valette, Stéphane Frangy.
Avec le confinement, Jean-Louis a goûté aux joies du silence.
Si on pouvait revenir à 3 mois en arrière, ce serait volontiers dans le quartier. Ah, c'était magnifique. C'est malheureux de parler comme ça, mais c'était une tranquillité. On était à la campagne, on retrouvait les cigales chez nous. Là, on est dans le bruit.
Et depuis, le retour à la normale est assez brutal pour Sandrine.
Les ambulances, les cris des gens qui se disputent, les autoradios à fond, les gros coups de frein, les coups de klaxon. Là, cette nuit, il y a eu un gros accident. On a été réveillé en sursaut par le bruit, malgré le vitrage phonique.
Et son voisin, Charles, craint que les travaux à venir aggravent encore la situation.
On a eu l'expérience, on a eu des travaux de réaménagement de la voie d'en face. Il y aura encore beaucoup plus de bruit. Ce que l'on souhaite, c'est d'être protégé du bruit, surtout du bruit des travaux qui doivent être réalisés la nuit.
C'est pourquoi le président du comité d'intérêt local, Jean-Marie Ferrero, se bat pour que le mur anti-bruit obligatoire soit levé en premier.
On demande qu'on applique la loi, mais nous on demande que le mur soit fait quand nous le désirons par rapport aux énormes nuisances que nous allons subir. Là, c'est pas gagné.
Ben c'est cruel, ouais. Il y a de l'être humain derrière.
Garantie qu'il n'a toujours pas obtenue alors que les travaux devraient durer, selon lui, au moins 4 ans. La Valette, Stéphane Frangy, Europe 1.
On entend bien les cigales aussi. Hein. Je ne sais pas s'il y a des murs anti-bruit pour les cigales. Ce matin, le calvaire doit enfin se terminer pour les quelques 180 migrants secourus par le navire humanitaire Ocean Viking. Ils vont pouvoir débarquer dans un port sicilien après l'autorisation des autorités italiennes.
Et il est temps, parce qu'après 10 jours d'errance en pleine mer, l'ambiance à bord était extrêmement tendue, pour ne pas dire explosive. Sophie Echen.
Quand l'Ocean Viking contacte les autorités maritimes maltaises et italiennes pour trouver un port de débarquement le 25 juin dernier, le bateau ne reçoit aucune réponse. La demande est répétée 6 fois, 7 fois et ne reçoit que des refus. Alors à bord, la tension monte, les marins ne peuvent fournir aucune information aux migrants, épuisés et fragilisés par leur périple. La situation dégénère, raconte Frédéric Pénard, le directeur des opérations d'SOS Méditerranée.
Nous avons eu 2 personnes qui se sont jetées à l'eau, que nos équipes de marins sauveteurs de SOS Méditerranée ont pu récupérer heureusement. Nous avons eu une tentative de suicide, des bagarres à répétition et puis il y a un état de fragilité psychologique, d'instabilité qui était déjà présent, renforcé par cette attente inacceptable en mer.
Tellement inacceptable que la situation a fait céder les autorités italiennes et le bateau atteindra la rade d'Empédocle en Sicile aux alentours de 8h ce matin. Tous les rescapés, au vu de leur état psychologique, seront pris en charge en urgence.
Des migrants qui vont devoir passer 2 semaines en quarantaine.
La Formule 1, et c'est le Finlandais Valtteri Bottas sur Mercedes qui remporte le premier Grand Prix de la saison en Autriche, mais sans public pour la réclamer.
Et à un moment marquant avant le début de la compétition, 14 des 20 pilotes ont posé un genou à terre en signe de soutien à la lutte contre le racisme. Axel May.
C'est l'image forte de ce premier Grand Prix de la saison. Les 20 pilotes sur la grille de départ vêtus de t-shirt noir avec des slogans anti-racisme. La plupart mettent un genou à terre. Lewis Hamilton enlève même le masque anti-coronavirus que les coureurs doivent porter quand ils ne sont pas au volant de leur Formule 1. Ce combat lui tient particulièrement à cœur. Champion du monde en titre, Hamilton est aussi le seul pilote de couleur. Marqué par la mort de l'Américain George Floyd, tué par un policier blanc, le Britannique a multiplié ces dernières semaines les prises de position contre le racisme et la F1 vient de lancer une fondation pour plus de diversité dans la discipline.
C'est un point de départ, mais je n'arrêterai pas d'insister jusqu'à ce qu'il y ait un vrai changement. Voir une personne de couleur ajoutée au paddock, ce n'est pas de la diversité.
Lewis Hamilton a également fait repeindre en noir les F1 de l'écurie Mercedes, habituellement argentée. En conférence de presse, il est apparu avec une chaîne autour du cou, accrochée par un cadenas. Interrogé sur son objectif de gagner un 7e titre mondial et d'égaler Michael Schumacher, il répond que cela signifierait beaucoup en cette année marquée par la pandémie et son combat pour l'égalité.
Et puis l'événement du jour, c'est, vous le savez, la réouverture du musée du Louvre, le plus visité au monde. Premier visiteur attendu à 9h pour admirer la Joconde ou la Vénus de Milo. Il faudra réserver, apporter son masque et suivre un parcours fléché sans possibilité de marche arrière. Pas de vestiaire ni de buvette. Nous serons devant le Louvre dans le journal de 8h.
J'adore le sans possibilité de marche arrière.
Ça, alors, c'est quand même un gros concept. Il faudra suivre les flèches.
Si t'as pas vu, hein, tu traces. Merci Hélène Zélani, à tout à l'heure pour le journal de 8h.